deux géants de la philo dont nous sommes tous, dites-vous, les enfants, même si on ne sait pas trop ce qu'ils ont écrit, même si on ne connaît pas toujours hein, ces philosophes, si on n'a pas eu de cours de philosophie. Platon et Aristote, ils influencent nos manières de raisonner, d'argumenter. Tous, nous pouvons dire que nous sommes plutôt platoniciens ou aristotéliciens, ou parfois un et parfois l'autre, en tout cas.
Un peu des deux.
En tout cas, c'est une référence qui peut s'appliquer à quasi tous les raisonnements.
J'entendais juste avant moi les questions sur Google. Personne ne demande comment on pense. On pense. Et si quelqu'un avait posé la question, je crois qu'on répondrait en remontant à Platon et Aristote. Et finalement, le rôle du philosophe, c'est pas trop quoi penser, mais comment on pense. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a un effort à faire pour retrouver la force de la raison. Et je crois que remonter à Platon et Aristote, c'est ce qui est le plus utile. Voilà, c'est le point de départ.
Mmh. Vous nous disiez, par exemple, avant de rentrer dans ce studio, que quelqu'un comme Mark Zuckerberg de Facebook, appelé Meta maintenant, était plutôt un platonicien.
Voilà, disons, Platon et Aristote constituent à deux une grille de lecture qui est très utile aujourd'hui. Et puis, Zuckerberg, il rêve d'un monde idéal, qu'il appelle le métavers, probablement un monde où il ne paye plus d'impôts du tout, mais ça c'est autre chose. Mais je dirais c'est une démarche typiquement platonicienne qui parlait d'un monde idéal, le monde des idées. Bezos, par exemple, ou sans doute les gens de Google, sont beaucoup plus pragmatiques. Et donc, il y a d'un côté le dogmatique Platon, le pragmatique Aristote. À deux, ils ont construit un échiquier sur lequel quiconque pense aujourd'hui, d'une certaine manière, joue. La pensée, c'est un jeu. Quand j'enseigne, j'essaie de convaincre, c'est un jeu. Et dans un jeu, il y a des règles. Et remonter à Platon et Aristote, je crois que c'est une excellente manière de se rappeler les règles. Et puis, forcément, il y en a qui jouent mieux que d'autres. Et je crois qu'il est très utile, je crois qu'il serait très utile de penser mieux. Parce que finalement, à l'école, on n'a jamais appris à penser. Moi, j'ai appris la géographie, j'ai appris le flamand, j'ai appris des tas de choses, mais je ne me souviens pas d'avoir eu un professeur qui est rentré en disant, ben voilà, aujourd'hui, on va apprendre à penser. Et mon grand combat, c'est d'introduire ça dans l'enseignement secondaire. Parce qu'il est un peu anormal d'apprendre la géométrie d'Euclide et pas la logique d'Aristote. C'est un accident de l'histoire qui fait que la logique vient de la philo et que dans la philo, on n'en a pas. Bon, mais ces accidents, un jour, il faut les réparer. Voilà.
Mais c'est amusant que vous preniez cet exemple parce que vous-même, vous êtes au départ ingénieur mathématicien. Oui. Ce n'est que sur le tard que vous avez appris la philosophie, même si vous vous y intéressiez depuis longtemps. En étudiant la philosophie, ça a vraiment éclairé vos apprentissages antérieurs.
D'abord, les grands mathématiciens étaient des philosophes. Pythagore,
bien sûr.
Rien que les X et les Y, qu'on appelait les axes cartésiens, personne ne m'a jamais expliqué pourquoi Descartes, qui est connu comme philosophe, s'était mêlé des X et des Y. Je me dis, la première machine à calculer, c'est Blaise Pascal, que je connaissais un petit peu par son théorème. Je me dis, mais c'est qui ? Et j'ai été ébloui en découvrant ce monde qui englobe les mathématiques, qui englobe la logique, qui est justement le monde de la philosophie.
Mais la culture de la philosophie, elle n'est pas si présente que ça chez nous en Belgique. Elle l'est sans doute beaucoup plus, par exemple, chez nos voisins français.
Oui. J'ai eu l'occasion d'enseigner beaucoup en France et on sent très très bien, il y a une différence. Et on parlait de Zuckerberg, les algorithmes par exemple. Tout le monde parle d'algorithmes. Bien, le premier algorithme, c'est Aristote qui l'a posé. Il s'est demandé au fond comment on pense. Est-ce que les gens aujourd'hui parlent d'intelligence artificielle, c'est ce qu'ils veulent faire. Et Aristote s'est dit, mais au fond, la pensée se déploie en trois temps. Le premier temps, c'est le concept, la table. Le deuxième temps, c'est la proposition, la table est ronde. Et la troisième, c'est le raisonnement, la table est ronde, j'aime ce qui est rond, donc j'aime la table. Et bien, c'est cette structure en trois temps, le concept, la proposition et le raisonnement, elle est encore aujourd'hui à la base de tout. Et je crois qu'il est indispensable aujourd'hui de comprendre les algorithmes. On parlait de Google tout à l'heure. Moi, il y a des choses très... Mais ne pas comprendre, c'est extrêmement dangereux. Et pour apprendre à comprendre, bon, je crois que ce sont les deux grands professeurs. Oui.
À quel âge, idéalement, faudrait-il s'initier à la philosophie ?
Mais je dirais... Moi, j'ai des petites filles de 8 ans. C'est peut-être encore un tout petit peu tôt, mais très, très vite. La logique, par exemple. Qu'est-ce que c'est la logique ? C'est la structure du raisonnement correct. Bon, prenons un exemple, une chambre avec une lampe et deux interrupteurs. Prenons-en, avec deux portes. Donc, j'allume, j'éteins. Eh bien, derrière, il y a une logique. La logique, c'est quoi ? Que si c'est allumé, quand je fais ça, j'éteins. Si c'est éteint, j'allume. Eh bien, c'est ça. Et je crois qu'on peut apprendre déjà à 10, 11, 12 ans les principes de la logique, les principes du raisonnement correct. Et je crois que ce serait extrêmement utile.
Hélène, est-ce que la capacité de structurer sa pensée et par là d'apporter des réponses aux questions qu'on se pose, parce que c'est ça aussi, structurer une pensée. Est-ce que pour vous, c'est aussi ce qui va nous donner confiance ?
Mais je crois, hein. Je crois, parce qu'aujourd'hui, ça déraisonne un petit peu. Je crois que tout ce qui est faux, le vrai, le faux, on est un peu perdu, les sujets d'avant, bon, le nucléaire, le vaccin, tout. Que penser ? Et je crois que reconstruire des fondations de la pensée, voir les arguments qui sont valables, ceux qui ne le sont pas, c'est indispensable. Sinon, on a un peu le vertige, quoi.
La philosophie, vous, ça vous a rendu heureux ?
Joyeux. Joyeux, certainement. C'est une joie de... C'est comme un emballage cadeau. Moi, je fais beaucoup de choses. Et la philosophie, en fait, pourquoi je suis entré en philo ? Pour mieux travailler. Moi, mon métier, c'est les idées. Et un jour, je me suis rendu compte, je suis un homme d'entreprise, que finalement, la partie où il n'y a pas de chiffres n'était pas tellement bien traitée. Quand il y a des chiffres, en gros, on sait faire. Hein. On dit, voilà, on passe de 14 à 18, il n'y a pas beaucoup de malentendus possibles. Mais quand on dit, on va améliorer l'image de marque, on va améliorer l'ambiance, l'esprit d'équipe, etc., il n'y a pas de chiffres. Et moi, je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient très, très pris au dépourvu dès qu'il n'y a pas de chiffres. Et pour moi, la philosophie, c'est la rigueur quand il n'y a pas de chiffres. C'est pour ça qu'il faut l'enseigner en même temps. Et c'est bien sûr l'approche, exiger des définitions, exiger des critères. En fait, c'est la lutte contre le café du commerce. C'est ça, la philo.
Donnons plus de place à la philo. C'est donc ça votre message. Et ce livre que vous écrivez avec Anne Mikolajczak est vraiment passionnant. Moi, je me suis beaucoup amusée. C'est sans prise de tête, c'est très accessible, sans être pour autant vulgarisé au mauvais sens du terme. Donc voilà, pour penser avec Platon et Aristote, ce livre de Luc de Brabander. Vous restez encore avec nous, on va parler d'analyse du discours.